École normale supérieure, savoir en multimédia.
Merci d'être ici aujourd'hui pour cette seconde séance du séminaire créé et diffusé en francophonie, donc organisé par l'association Francophonie ENS. Aujourd'hui, nous accueillons Gisèle Sapiro, sociologue. Elle est directrice de recherche au CNRS, directrice d'études à l'EHESS, où elle dirige le laboratoire, le Centre européen de sociologie et de sciences politiques, le CESP, donc, qui est une fusion du CRPS de Paris 1 et du CSE de l'EHESS, fondé par Pierre Bourdieu. Gisèle Sapiro est spécialiste de sociologie de la littérature et des intellectuels. Ses travaux sur la guerre des écrivains, son premier livre, puis très récemment La responsabilité de l'écrivain, paru en 2011, s'inscrivent dans cette approche, dans ce domaine de sociologie. Elle travaille également sur la sociologie des échanges culturels internationaux. Elle a fait paraître notamment le livre Translatio, le marché de la traduction en France à l'heure de la mondialisation, en 2008. Et c'est à partir de ces travaux notamment qu'elle nous présente aujourd'hui qu'elle fait une conférence, Déclin ou renouveau, la place du français sur le marché de la traduction à l'heure de la mondialisation. Je laisse la parole à Gisèle Sapiro.
Merci à Tristan Leperlier et merci à l'association Francophonie ENS de cette invitation dont je vais vous présenter en fait le fruit de différentes enquêtes que j'ai menées ces dernières années sur la question de la traduction et du marché mondial du livre. Le marché mondial du livre et par conséquent celui de la traduction est structuré par deux types de frontières qui ne se recoupent pas. Des frontières linguistiques et des frontières étatiques. Les langues dessinent des aires de diffusion des livres qui transcendent les frontières étatiques et donc un vaste marché supranational, tandis que les États imposent des frontières douanières et adoptent des politiques d'aide qui définissent un marché national et un espace de distribution. À ce double principe de structuration s'ajoute la concentration de la production autour de quelques villes centrales, comme New York, Londres ou Paris, structuration qui est à l'origine de l'inégalité des échanges avec la périphérie, aussi bien au sein des aires linguistiques que plus largement dans le marché mondial de l'édition. On a donc trois variables, langue, pays, ville, qu'il faut distinguer clairement pour dessiner une géographie de la traduction. La circulation des livres en langue originale n'est pas limitée aux frontières étatiques, même si ces frontières peuvent constituer un obstacle. Elle dépend de l'existence de lecteurs, et j'insiste bien sur lecteurs et non sur locuteurs, donc de lecteurs potentiels et de lecteurs effectifs. Alors, le français a sous ce rapport longtemps été la langue des élites européennes, en concurrence au XVIIe siècle avec le latin, qui était la langue de la communauté savante. Il est promu par la monarchie absolue, à la fois comme langue administrative et comme langue de la cour et des hommes de lettres, pour favoriser l'unification linguistique du royaume. Au XVIIIe siècle, il devient la langue des cours européennes et de la littérature en Europe et même au-delà. Et dès la fin du siècle, il est cependant concurrencé par l'anglais dans le domaine scientifique et technique, puis au XIXe siècle par l'allemand, mais reste dominant dans le domaine littéraire jusqu'en 1945, même si l'anglais s'affirme de plus en plus dans ce domaine littéraire également. Paris demeure pendant toute cette période la capitale de la République mondiale des lettres, comme l'a montré Pascal Casanova. L'hégémonie littéraire parisienne s'exerce notamment en Europe du Sud et en Amérique latine, sans parler bien sûr des colonies. Cependant, après la Deuxième Guerre mondiale, la position centrale de l'anglais se voit renforcée par l'essor de la littérature américaine. Et de fait, dans les années 60, on peut dire que New York s'impose à son tour comme capitale littéraire, doublant même Londres, qui était le centre de l'ère anglophone. Cette position centrale fait de ces capitales des lieux de médiation sur le marché de la traduction. hein, ce qui est traduit en anglais ou en français, langue véhiculaire, et qui est publié en France, en Angleterre ou aux États-Unis, a plus de chances d'être traduit dans d'autres langues. Donc c'est une médiation entre langues qu'on peut dire périphériques par rapport à la centralité de ces langues. Elle joue donc un rôle clé dans ce que Daniel Milo avait appelé la Bourse mondiale des traductions, qui se traduit notamment par leur pouvoir de consécration au sein de la République mondiale des lettres, ainsi que par leur rôle de maintien ou non de la diversité culturelle, du fait justement de ce rôle médiateur pour l'accès à la scène internationale. Les échanges éditoriaux entre ces centres du marché mondial du livre constituent donc un terrain privilégié pour en comprendre les transformations à l'ère de la mondialisation. Or, ces échanges sont très asymétriques. En effet, si le mot d'ordre de la mondialisation a favorisé l'intensification des échanges internationaux, à en juger par l'accroissement global des traductions dans le monde, qui ont augmenté de 50% entre 1980 et 2000, selon les données de l'index translationum de l'UNESCO, cette intensification a en fait surtout bénéficié à l'anglais, qui a renforcé sa position hyper centrale. Vous pouvez voir dans ce tableau que la part des traductions de l'anglais dans le monde est passée de 45% des livres traduits partout dans le monde dans les années 80 à 59% des livres traduits partout dans le monde. Donc 45% et puis 59% des livres traduits dans le monde le sont à partir de l'anglais. Là, c'est tout genre et toute catégorie confondues. En fait, si on regarde bien le tableau, vous voyez que l'anglais a surtout profité de la chute du russe qui est tombé après 89, qui représentait une langue centrale près du français et de l'allemand. Hein, vous voyez, se situer autour de près de 12%, le russe a chuté à 2,5% de manière assez brutale après 89. Et on a le sentiment que ces 10% ont été récupérés par l'anglais. Ce n'est pas seulement un sentiment, d'ailleurs, c'est un marché qui a été largement conquis par l'anglais, hein, le marché du livre en Europe de l'Est. Très loin derrière, le français demeure avec 10% des livres traduits dans le monde, donc il demeure la deuxième langue centrale, juste devant l'allemand, une position qui se trouve cependant fragilisée, et cet écart se manifeste notamment dans une asymétrie accrue des échanges entre la France et les États-Unis. Donc je vais m'appuyer ici sur l'enquête qualitative et quantitative que j'ai menée avec l'aide du MOTIF, l'Observatoire du Livre d'Île-de-France, sur les traductions littéraires du français aux États-Unis entre 1990 et 2003, que j'ai pu aussi comparer à des données que j'avais recueillies sur les flux de traductions littéraires de l'anglais en français cette fois. Si j'ai le temps, je dirai quelques mots d'une enquête en cours que je mène pour l'Institut français sur les traductions de sciences humaines et sociales, que j'ai commencé déjà auparavant, mais que je poursuis actuellement dans ce cadre, pour comprendre l'évolution de la position du français sur le marché mondial des traductions à l'ère de la mondialisation. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, parce que parfois, c'est un peu technique, un peu compliqué. Si les chiffres ne sont pas clairs, posez la question, parce que sinon, vous perdrez le fil et ce serait dommage. Je vais d'abord examiner l'évolution en essayant de cartographier les circulations entre l'anglais et le français, l'évolution donc des circulations entre ces deux langues. Le ratio des flux de traduction entre les langues donne la mesure de l'inégalité des échanges. Le ratio, donc, c'est le rapport entre les traductions de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais. En fait, ce ratio est au bénéfice du français dans ses échanges avec toutes les langues, hormis l'anglais. C'est-à-dire qu'avec toutes les langues, on traduit plus du français que le français ne traduit de ces langues, à part l'anglais. Donc, ça montre bien la position de centralité en deuxième position du français par rapport à l'anglais, mais avec un écart assez large. Comme je l'ai dit, il est suivi de près par l'allemand. Et la situation, d'ailleurs, le rapport avec l'allemand est peut-être en train d'évoluer, mais je n'ai pas suffisamment de données là-dessus. Alors, l'évolution de ce ratio constitue un indicateur de stabilité ou au contraire de variation. Or, le ratio des traductions de l'anglais en français ou et du français en anglais, pardon, a quasiment doublé pendant la période. Ce qui signifie, en gros, que la hausse des traductions de l'anglais en français n'a pas eu d'équivalent dans l'autre sens. On traduit de plus en plus de l'anglais, alors qu'on ne traduit pas de plus en plus du français vers l'anglais. C'est davantage le cas pour la littérature que pour la totalité des ouvrages traduits. De fait, l'augmentation des traductions de l'anglais est largement due à un accroissement des traductions de best-sellers, de thrillers, etc. Je reviendrai sur ces catégorisations. Alors, si on s'interroge, vous voyez là, dans ce graphique, il y a une distinction entre la littérature et le total, et donc vous voyez que le ratio, l'écart se creuse plus encore en littérature. Le ratio, c'est un rapport entre des flux de deux côtés. Alors là, on a l'évolution des traductions de l'anglais en français qui ont été publiées en France. Je distingue la langue du lieu. Donc si on s'interroge à présent de façon plus spécifique sur l'évolution de ces traductions littéraires de l'anglais publiées en France et celles du français parues aux États-Unis, que je vous montre ici, là, ce sont seulement les titres littéraires. Ici, vous avez le décompte de la littérature dans l'ensemble. On constate une différence entre les courbes, vous l'avez vu tout de suite. Là, vous voyez que du côté des traductions de l'anglais en français, on a une sorte d'augmentation constante et régulière, même si la croissance de la littérature est inférieure à l'ensemble des traductions de l'anglais. En revanche, le nombre de traductions littéraires du français en anglais a stagné, voire régressé, après une hausse au début des années 90. Et là, je parle des traductions aux États-Unis uniquement. En fait, la deuxième moitié des années 90 marque un creux, comme vous le voyez, qui semble correspondre plus généralement à un relatif déclin de l'exportation de la littérature française sur le marché mondial de l'édition à cette époque, d'après des données que j'ai pu recueillir par ailleurs. Et comme vous voyez, ce creux a été un peu rattrapé depuis. Alors, l'asymétrie des échanges se mesure aussi par la différence dans la répartition géographique des traductions. Alors ça, c'était quelque chose d'un peu expérimental que j'ai tenté, d'essayer de voir comment se situaient les traductions dans les aires géographiques. Et alors, vous voyez, le décalage est assez intéressant entre l'ère francophone et l'ère anglophone. Alors que 81% des traductions de l'anglais en français se publient en France, donc très forte centralisation éditoriale dans l'ère francophone, seuls 37,5% des livres traduits du français en anglais voient le jour aux États-Unis. Ce qui veut dire que tout le reste voit le jour dans d'autres pays. Alors, à quoi tient cette moindre concentration des traductions aux États-Unis ? Elle tient à deux principaux facteurs. En premier lieu, la position centrale des États-Unis dans l'ère éditoriale anglophone est plus récente que celle de la France dans l'ère francophone. Et cette centralité est évidemment partagée avec le Royaume-Uni. Donc, on a deux centres dans l'ère francophone, anglophone, alors qu'on n'en a qu'un dans l'ère francophone. Deuxième facteur, c'est la part significative des traductions du français en anglais qui est réalisée au Canada à la faveur des politiques publiques de soutien à la production québécoise. Donc ce sont des traductions internes au sein du Canada, du québécois vers l'anglais. Alors l'écart se renforce si l'on considère à présent la concentration des flux de traduction entre les deux langues dans les capitales respectives des deux pays. Vous voyez que si on regarde ce qui se publie des traductions de l'anglais en français, 72% des traductions, de toutes les traductions de l'anglais en français, donc près de trois quarts, paraissent à Paris. Donc la centralisation géographique autour de la ville de Paris est encore plus forte. Alors que seuls 15,8% des traductions du français paraissent à New York. Est-ce que c'est clair dans ce tableau ? Donc la dispersion géographique de l'édition états-unienne tient en fait à l'existence d'un autre centre de moindre importance en Californie et elle tient aussi au rôle que jouent dans la traduction les presses universitaires qui sont réparties sur tout le territoire américain. Et cette répartition géographique varie selon les catégories d'ouvrages. ce qui confirme le poids du facteur que je viens d'évoquer, celui des presses universitaires. En effet, les traductions littéraires, même si j'inclus les ouvrages pour la jeunesse, sont plus concentrées à New York. Hein. Vous pouvez le voir pour la littérature dans le deuxième tableau. On a 25,7% alors qu'on avait 15,8%. Alors que les sciences humaines sont évidemment plus dispersées parce qu'elles sont publiées principalement par les presses universitaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que les presses universitaires jouent, et j'y reviendrai aussi plus tard, un rôle non négligeable dans l'apportation de la littérature française aux États-Unis, et pas seulement des sciences humaines. Et de ce fait, finalement, seuls 46% des traductions littéraires du français qui paraissent aux États-Unis, cette fois je ne parle pas de toute l'ère anglophone, mais aux États-Unis, paraissent à New York. Si vous regardez cette carte, vous verrez la dispersion, et là je ne parle que des traductions littéraires qui ont été réalisées entre 1990 et 2003. Donc vous voyez qu'il y a une très forte dispersion et finalement seulement 46% paraît à New York, alors que vous avez vu de ce qui paraît aux États-Unis, alors que vous avez vu que la centralisation parisienne pour les traductions de l'anglais est beaucoup plus élevée. Alors, dans l'ère francophone, le taux de concentration de la littérature traduite de l'anglais dans la capitale française atteint le record de 89,5%. Hein, donc, c'est 9... vous le voyez, là, dans le... J'ai pas de... Enfin, c'est là, voilà. On reste aux moyens artisanaux. C'est 9 titres sur 10, donc, paraissent à Paris. Et cette concentration est d'autant plus significative que le nombre d'ouvrages de littérature traduits de l'anglais en français, pour la période que j'ai étudiée, 90 à 2003, avoisine les 45 000 titres. Donc plus de 37 000 ont été publiés à Paris. Et si je compare avec le nombre de titres traduits du français en anglais, aux États-Unis, à New York, on a 640 traductions. Donc contre 37 000. Il y a donc un écart flagrant entre la présence massive de la littérature traduite de l'anglais à Paris et la discrète présence des traductions littéraires du français dans la masse de la production éditoriale new-yorkaise. Et si on considérait l'accès aux points de vente, on verrait que cette discrétion est encore plus importante parce qu'ils arrivent très peu en librairie. Donc cet écart tient non seulement à l'asymétrie des flux globaux de livres entre les deux langues, mais et aussi, on l'a vu, à la dispersion géographique, mais en plus, elle tient au fait que la littérature ne représente... Il y a un écart dans la part de la littérature dans les traductions d'une langue à l'autre. Hein. Donc la littérature représente plus de la moitié des livres traduits de l'anglais en français, hein, c'est 56%. Alors que ça n'est que moins d'un quart des traductions du français en anglais. Et même si ce taux augmente significativement lorsqu'on ne considère que la France d'un côté, donc c'est 62% de ce qui traduit de l'anglais en français, c'est de la littérature si on considère la France, et d'un côté les États-Unis de l'autre, là c'est 33% de ce qui se traduit du français aux États-Unis, c'est de la littérature, et le poids de la littérature augmente à mesure qu'on va vers les centres, c'est-à-dire vers les villes, hein, que si on arrive à Paris, la littérature représente 2/3 des livres traduits, 65%, à New York c'est 36%, donc 1/3, mais vous voyez que ce rapport de 1 à 2 se maintient d'un côté et de l'autre, et en fait cet écart tient à la place importante des sciences humaines dans les traductions du français aux États-Unis, j'espère avoir le temps d'y revenir, mais bien sûr aussi dans l'autre sens, au point important de la littérature de grande diffusion dans les traductions de l'anglais en français, qui n'a pas d'équivalent pour les traductions du français en anglais, et là aussi, je vais y revenir. Alors maintenant, qu'est-ce qui se traduit, hein? Qui sont les auteurs traduits? Qu'est-ce qui circule? Et là, je vais me concentrer sur les traductions du français aux États-Unis. Et d'abord, un constat, c'est que malgré les discours sur la globalisation et l'hétérogénéité de la production, la littérature demeure fortement ancrée dans un cadre de perception nationale. un cadre qui est entretenu par l'implication des États-nations dans le marché mondial du livre. On parle de littérature française et de littérature américaine. Ce phénomène est encore plus prégnant en France, où les catalogues des éditeurs français s'organisent autour de la distinction entre littérature française et littérature étrangère, au singulier ou au pluriel, qui n'a pas d'équivalent aux États-Unis, sauf quelques petites maisons indépendantes comme David Godin. Alors, dans l'édition française, cette distinction repose sur un amalgame entre langue et nation, parce qu'en fait, les littératures étrangères, ce sont les littératures traduites, hein, alors que les collections de littérature dite française inclut la littérature francophone. En fait, c'est la littérature en français. D'ailleurs, le décret de 1993 prenait acte de cet état de fait pour redéfinir la politique du livre du ministère de la Culture de manière à étendre cette politique à tous les écrivains de langue française et non plus seulement aux écrivains de nationalité française. Ça n'a pas dissipé la confusion qui subsiste, notamment à travers l'usage de la notion de littérature française pour désigner, comme je le disais, la littérature en français, aussi bien dans les classements éditoriaux, hein, quand on distingue entre collection de littérature française et collection de littérature étrangère, que dans les circuits d'exportation du livre français à l'étranger. Donc je crois qu'on reparlera la prochaine fois dans ce séminaire. Alors, l'amalgame découle en bonne partie du rôle médiateur que joue, du fait de sa centralité dans l'ère francophone, l'édition française, et plus particulièrement parisienne, laquelle a permis à nombre d'auteurs de la périphérie d'accéder à la consécration internationale. Outre les instances étatiques, telles que le Bureau du livre français, l'État subventionne des intermédiaires, comme le Bureau international de l'édition française, le BIEF, ou la French Publishers Agency, qui représente les éditeurs français à New York. Et en fait, c'est l'édition française, dans toute la diversité de sa production, ou plus exactement de sa production haut de gamme, pour utiliser upmarket, pour utiliser les quatre classifications qui sont en usage dans ce monde, enfin dans le monde anglo-américain surtout. Donc c'est l'édition française que ces instances représentent, hein, le BIEF et la French Publishers Agency. Alors, dans le circuit de réception, à l'inverse, les départements de littérature francophone sont le plus souvent séparés de ceux de la littérature française, à quelques notables exceptions près, dont le département de UCLA et celui de l'Université de Virginia. Maintenant, il y a une tendance à la fusion, parce que c'est une séparation qui a été contestée, parce qu'elle reposait sur une hiérarchie implicite, mais en même temps, elle a favorisé la consécration académique des auteurs contemporains de la périphérie francophone. Alors, l'analyse quantitative des ouvrages de littérature traduits du français aux États-Unis entre 1990 et 2003 offre en fait un terrain d'observation privilégié des logiques qui sont à l'œuvre dans la circulation des traductions. Et elle fait tout d'abord apparaître cette fiction des littératures nationales. Alors, simple mesure des nationalités des auteurs traduits, ce qui est un indicateur évidemment discutable, la nationalité, mais enfin, c'est un indicateur quand même juste parmi d'autres. Ce qu'il montre tout d'abord, c'est que la diversité des auteurs traduits est grande. On a une trentaine de nationalités. Certes, vous le voyez, trois quarts des livres traduits du français en anglais aux États-Unis, des livres de littérature, hein, là je parle que de littérature, donc c'est 859 titres, ont pour auteur un écrivain de nationalité française. Suit la Belgique, 83 titres, principalement à cause de Simenon, qui à lui seul concentre 54 titres. Mais on trouve aussi des titres d'Amélie Nothomb ou de Jean-Philippe Toussaint. La présence de la nationalité américaine est due principalement à Julien Green et à Elie Wiesel. Pour la Suisse, on a 16 titres. Outre Rousseau et Madame de Staël, on trouve des titres d'Agota Christophe, de Jean-Jacques Fichter et de Robert Pinget. 45 titres traduits sont dus à des auteurs issus de pays arabes, notamment des anciennes colonies françaises. Donc 29 titres, soit près de deux tiers de sont de ces anciennes colonies. Alors on a l'Algérie, il y a Siad Jebar, Mohamed Dib, Tahar Jehoud, Kateb Yassine, le Maroc, Tahar Ben Jelloun notamment, dans une moindre mesure la Tunisie. On a 17 aussi auteurs qui sont issus d'Afrique subsaharienne, dont Amadou Kourouma pour la Côte d'Ivoire, Sangor et Ken Bougoul pour le Sénégal, Kamara Lai pour la Guinée. Et 7 des ouvrages traduits proviennent d'auteurs haïtiens, dont Lionel Trouillot et René Depestre. Alors, parmi les auteurs les plus traduits, je vais vous sortir la liste. On compte, après Simenon, des classiques surtout, Jules Verne, Molière, Balzac, Dumas, Hugo, et quelques contemporains, parmi lesquels Annie Ernaux, qui a 14 titres traduits, suivi d'Elie Wiesel, de Marie Scondé. Ces deux derniers enseignent dans des universités américaines, tout comme Assia Djebar. La diversité, vous voyez, est plus grande encore parmi les auteurs les plus traduits hein, dans cette liste-là. Ainsi, sur les 14 auteurs contemporains ayant au moins 5 titres traduits pendant la période de référence, 2 sont issus des dom-toms, donc on a Marie Scondé, Patrick Chamoiseau, un des anciennes colonies, Tahar Ben Jelloun, 2 sont immigrés, on a Amin Mahalouf qui vient du Liban et André Makin qui est issu de Russie. Voilà. Alors, question genre, les femmes représentent... 1/5 de la totalité des livres traduits. Mais évidemment, si on ne considère que les auteurs contemporains et les auteurs contemporaines, cette part passe à 1/3. Alors, cette diversité culturelle et de genre est le fruit d'une politique éditoriale délibérée du côté des éditeurs américains. Un sous-agent qui était en activité à l'époque se souvient qu'il y avait, je cite, une sorte de prime à la non-francité ou au non-parisianisme, en tout cas des auteurs, à tout ce qui n'était pas French, white et male, conservative. D'habitude, il rajoutait « and dead ». En gros, c'était « n'essayez pas de me vendre un français mort, blanc, mâle, conservateur », c'est ce que lui disaient les éditeurs américains. Donc la littérature française a été mise en concurrence avec la littérature francophone. Sa domination a été contestée par ses marges, en gros. Et si cette politique a eu le mérite de contrebalancer l'effet de sélection opéré par la concentration de l'édition francophone à Paris, qui a marginalisé les auteurs de la périphérie et les groupes dominés, hein, les femmes, les minorités, elle n'est pas exempte, évidemment, de préjugés que le manifeste pour la littérature monde en français, qui peut être lu d'ailleurs comme une réponse bien ajustée aux attentes de l'édition américaine, a largement repris à son compte. Qui plus est, cette diversité ne doit pas faire illusion. D'une part, elle se répartit inégalement entre les pays d'origine, vous l'avez vu. D'autre part, la grande majorité de ces titres ont été publiés par des éditeurs français, voire parisiens, hormis les Canadiens, notamment Nancy Houston, qui est coéditée par Actes Sud et l'EMEAC. L'analyse quantitative fait en effet ressortir le rôle central de l'édition parisienne dans la circulation internationale des ouvrages de littérature en français, dont il faudrait pouvoir mesurer les effets homogénéisants du point de vue de critères de sélection des œuvres d'auteurs d'origine étrangère. On sait pendant longtemps, l'édition, les éditeurs français réécrivaient par exemple le québécois qui est considéré comme écrit en mauvais français. Donc, il est corrigé. Maintenant, ça a changé. Des auteurs comme Chamoiseau nous y ont aidés, mais bon. Et c'est la même chose pour les sciences humaines, c'est-à-dire le rôle de l'édition parisienne est très important. Alors, si on regarde les éditeurs des ouvrages littéraires traduits aux États-Unis, les éditeurs français. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait là. Ah, voilà. Vous voyez que Gallimard arrive très largement en tête avec 29% des titres traduits. Alors là, je parle toujours de la littérature. Les autres éditeurs littéraires se trouvent loin derrière. On a Le Seuil avec 7%, Minuit et Les Presses de la Cité 5%, Grasset et POL 4%, et le reste est en dessous. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que la représentation des maisons d'édition n'est pas proportionnelle à leur taille. Minuit et POL sont deux petites maisons dont la part est équivalente à celle de grandes maisons comme Grasset ou Albin Michel. Cette analyse fait donc apparaître la place importante qu'occupe dans l'exportation de la littérature en français les petits éditeurs situés au pôle de production restreinte, pour reprendre le concept élaboré par Pierre Bourdieu pour caractériser la structure du champ éditorial. Alors, ce concept renvoie à une opposition entre pôle de grande production et pôle de production restreinte qui structure, selon Bourdieu, le champ éditorial. Au pôle de grande production prévaut la logique de la rentabilité, au service de laquelle est mise la rationalisation de la production, qui passe notamment par les concentrations, tout le processus de fusion-acquisition, la surproduction et la tentative de contrôler la chaîne de diffusion-distribution. À l'opposé, le pôle de production restreinte privilégie la dimension intellectuelle du travail éditorial ses représentants tentent plutôt à négliger le profit à court terme au bénéfice de l'accumulation de capital symbolique sur le long terme par la constitution d'un fonds d'ouvrages sont appelés à faire référence sur le plan intellectuel ou esthétique, qui peuvent devenir susceptibles de devenir des classiques, disons. Donc, ils s'inscrivent dans un temps long. Et de ce fait, l'économie de ce pôle se caractérise par le recours à des aides et subventions provenant des pouvoirs publics. Ou bien, ailleurs, ça peut être le mécénat ou les fondations philanthropiques. Par exemple, l'édition à but non lucratif, telle qu'elle existe aux États-Unis, peut être considérée comme l'équivalent structural, de ce point de vue-là, des ouvrages qui bénéficient des politiques d'aide en France. Même s'il s'agit d'une aide privée dans ce cas, ils sont un équivalent structural parce qu'ils sont aidés au nom de leur mission intellectuelle, pédagogique, esthétique, etc. Et d'ailleurs, parmi les ouvrages aidés par les fondations philanthropiques, les éditeurs aidés par les fondations philanthropiques, un des arguments qu'ils évoquent, ça peut être la traduction. Hein, la traduction comme vocation, comme mission, pour justifier le fait de bénéficier d'aide. Donc vous voyez que malgré les différences entre traditions éditoriales, alors j'en ai listé quelques-unes, je ne sais pas si c'est nécessaire de... je crois que je ne les ai pas mises, désolée. Entre les différences entre traditions éditoriales entre la France et les États-Unis, il y a des distinctions, par exemple la distinction juridique entre but lucratif et but non lucratif n'existe pas en France, ou en tout cas elle n'a pas de pertinence, elle ne structure pas l'édition alors qu'elle la structure complètement aux États-Unis, ou alors le rôle des agents qui est beaucoup plus important dans l'édition anglo-américaine qu'en France, ou encore le fait qu'il n'y ait pas de politique publique d'aide ou quasiment aux États-Unis d'aide pour le livre. Malgré ces différences, on voit que il y a des homologies structurales que le concept de champ permet d'appréhender à travers cette opposition entre pôle de grande production et pôle de production restreinte. Et c'est ce que j'ai découvert en allant faire cette enquête sur les traductions aux États-Unis lorsque j'ai rencontré tous ces petits éditeurs indépendants, parfois à but non lucratif, parfois à but non lucratif, mais qui travaillaient souvent de manière artisanale, avec une véritable vocation éditoriale, avec un projet intellectuel, et qui parfois et très souvent de manière au moins en partie bénévole. Donc il y avait un équivalent en fait à ce qui existe en France de ce point de vue-là. Alors ce principe de structuration révèle, c'est que contrairement aux affirmations réitérées sur le nivellement des consommations culturelles ou le brouillage des hiérarchies qu'on entend souvent dans la sociologie de la culture anglo-américaine, en fait l'opposition entre culture légitime et culture de masse continue à structurer la production culturelle en la hiérarchisant en fonction du public cible et de son capital culturel. Et c'est pensé clairement en ces termes. Elle sous-tend de façon plus ou moins explicite les principes de classification de l'édition américaine, comme ceux d'ailleurs de l'édition française, tant du point de vue des supports et des formats que de celui des circuits de diffusion-distribution. Alors, l'opposition entre un pôle de grande production et un pôle de production restreinte s'exprime dans les mêmes termes en France et aux États-Unis. On oppose les short sellers aux long sellers, donc cycle court, cycle long. Il y a d'autres catégories utilisées par les agents de cet espace, notamment les agents littéraires, comme l'opposition que j'ai déjà suggéré, un des termes upmarket versus commercial literature. Donc c'est une classification que les agents utilisent quand ils vont proposer des produits à la traduction. Et alors après, avec des subdivisions, hein, alors certains... Les éditeurs français qui m'ont raconté ça me disent, mais quand ils disent very commercial, on commence à avoir peur. Et ça correspond à des circuits de distribution différents, avec notamment le circuit du mass market qui est pensé comme ça, c'est-à-dire les grandes surfaces pour les livres dits commerciaux, et le circuit plus restreint pour le upmarket, qui est parfois appelé aussi serious books, les livres sérieux pour les sciences humaines, par exemple. Ou la littérature upmarket, voilà. Donc aussi cette distinction serious and entertainment hein, qui structure. Donc vous voyez que la part relativement importante des petits éditeurs comme Minuit et POL dans les traductions du français aux États-Unis, elle a une signification et de fait, elle n'est ni le fruit du hasard, ni la manifestation d'une exception, mais elle exprime au contraire une tendance générale, c'est que la littérature française traduite relève très majoritairement de la catégorie upmarket, selon ses principes de classification. Et elle se démarque sous ce rapport de la littérature traduite de l'anglais, dont une grande part relève du pôle de grande production, hein, ce que j'ai mentionné, les best-sellers, les thrillers, les romans roses, etc. Donc ça, il y a très peu de traductions, ou quasiment pas, du français dans ces genres-là, dans ces catégories-là. Après, comment ils définissent le upmarket, et ça ne recoupe pas tout à fait forcément nos catégorisations, mais voilà. Alors, comment expliquer le fait que le français soit confiné quelque part au upmarket? Je pense que ça n'a pas toujours été le cas. Enfin, de ce que j'ai pu étudier, les traductions du français dans les années 70 vers d'autres langues, il y avait des traductions même de littérature populaire ou d'ouvrages de vulgarisation. Et en fait, ça tient à la domination de l'anglais au pôle de grande production partout dans le monde. Et partout dans le monde, il entre en concurrence même avec les productions nationales dans ces catégories, hein, des romans roses ou des thrillers. Si vous prenez des collections, par exemple, comme la collection Lafont, la collection best-seller chez Lafont, les trois quarts des livres qui s'y publient sont des traductions, presque toutes de l'anglais. J'ai recensé, je crois, sur les années 80-90, quatre traductions de l'allemand et une traduction du russe avant 89. C'était un livre d'espionnage. Voilà. Donc l'anglais est vraiment dominant, une domination écrasante à ce pôle de grande production. Alors, il y a le cas des polars qui est très intéressant, c'est-à-dire dans le cadre de l'enquête que Tristan a citée, de Translatio, Anaïs Bocabza avait étudié les polars, il y a un chapitre sur les polars, et 9 polars sur 10 étaient traduits de l'anglais. Alors, il y a eu développement de traduction de polars d'autres langues, mais c'est un genre qui s'est diffusé, mais pendant très longtemps, et puis aussi qui s'est intellectualisé. Il y a un développement du polar français dans les années 80, c'est quelque chose qu'on peut étudier dans le cadre des processus de légitimation de genre et de différenciation. Il n'en reste pas moins que, au pôle le plus commercial, disons, du polar, l'anglais reste dominant. Et on voit que cette domination s'est accrue, en fait, dans cette période. Hein. Par exemple, j'avais regardé sur l'index Translationum la collection Harlequin, je pense que le nombre de titres traduits de l'anglais s'était multiplié par 5 pendant la période, ce qui était bien plus élevé que l'accroissement moyen des traductions. Alors ce constat de l'écart entre le type de littérature qui se traduit de part et d'autre se confirme si on compare les genres. Excusez-moi, certains tableaux sont en anglais, c'était lié aux données que nous avions. Alors là, vous voyez que ce qui est traduit du français aux États-Unis selon le genre, Alors, premier constat, avant, je vous montre tout de suite les deux camemberts. Premier constat, c'est la part la plus importante du roman de part et d'autre. Hein. Donc, on voit l'écrasante domination du roman qui concentre la moitié des traductions dans les deux sens. J'ai inclus l'autofiction que j'avais codée séparément parce qu'elle n'entre pas dans la classification fiction-non-fiction qui prévaut dans l'édition américaine, mais là, je l'inclus. Pour le reste, la comparaison entre les traductions du français aux États-Unis et de l'anglais en France révèle des différences notables, en particulier la place des genres à diffusion restreinte, la poésie et le théâtre. Voilà, vous pouvez voir la poésie et le théâtre qui représentent 11% et 13% et 8% des traductions du français aux États-Unis, alors que leur part est beaucoup plus faible dans les traductions de l'anglais en français. En revanche, vous voyez que le roman noir et la science-fiction occupent une part beaucoup plus importante qu'en sens inverse. Hein. Roman noir, c'est 29,2% et la SF, la science-fiction, 11,4%. Donc vous voyez qu'à travers cet indicateur grossier, hein, j'en ai conscience du genre, mais enfin il est quand même indicatif de la préférence accordée à la littérature dite « upmarket ». Aux États-Unis, enfin concernant les traductions du français. Maintenant, si on regarde les éditeurs américains qui traduisent du français. Alors, excusez-moi, ce tableau est un peu touffu, il ne vous dira pas grand-chose, mais je vais vous en faire une sorte d'interprétation. Le premier phénomène marquant, c'est le rôle des presses universitaires et des maisons d'édition à but non lucratif dans l'importation de la littérature française. Sur les 29 éditeurs ayant publié au moins 10 traductions du français entre 1990 et 2003, 9, soit près d'un tiers, sont à but non lucratif. Vous voyez que l'Université de Nebraska arrive en tête avec 60 titres. On a ensuite Dalkey Archives, University of Chicago Press, The New Press, qui en ont publié une vingtaine. Alors, on trouve les grandes maisons traditionnelles qui sont devenues des marques dans des grands groupes, comme Knopf. Il apparaît là, hein, il traduit encore, mais c'est vrai que le poids relatif est pas. Enfin, il y a 33 titres, hein, c'est pas rien. Donc Knopf qui appartient aujourd'hui au groupe Random House, qui arrive en deuxième position. Mais ce rôle est de plus en plus pris en charge, ce rôle d'importation de la littérature française est de plus en plus pris en charge par le secteur non lucratif, en fait. Alors, cette relégation croissante des traductions au secteur à but non lucratif, même si Knopf ou Harcourt Brace ou Farrar Straus-Giroux continuent à publier des traductions du français, à côté aussi des petits éditeurs indépendants que je n'ai pas mentionnés, mais qui sont très présents sur le terrain de la traduction. Alors, cette relégation, en fait, tient aux transformations de l'édition et de la librairie. Comme vous le savez, l'édition, qui est un secteur relativement stable, est devenue un secteur convoité par les grands groupes de communication, tels que Bertelsmann, qui a racheté Random House en 1998, et autres groupes, qui ont imposé une logique de quête de profit à court terme contre la logique intellectuelle qui prévaut au pôle de production restreinte. Et les concentrations font que les critères d'évaluation des livres par les éditeurs sont de plus en plus soumis à des logiques commerciales, ce que décrit André Chiffrine dans son livre « L'édition sans éditeur ». Alors, les effets de ce processus sont plus flagrants aux États-Unis et en Grande-Bretagne qu'en France, en raison de la concentration de la distribution des livres autour de deux grandes chaînes de librairies pour les États-Unis, hein, Barnes & Noble et Borders, qui entre-temps a fait faillite, alors qu'il existe en France, comme vous le savez, un réseau de librairies indépendantes soutenu par l'État. Il existe aussi un réseau de librairies indépendantes aux États-Unis, mais c'est considérablement restreint, comme l'a montré John Thompson dans son livre sur l'édition anglo-américaine, et il s'est restreint parce qu'il ne jouit d'aucun soutien. Alors, aux États-Unis comme en France, les petits éditeurs se plaignent de cette situation qui raccourcit la durée de vie des livres en librairie, et puis pour beaucoup d'entre eux, qui empêche même l'existence de ces livres en librairie. dans un système de surproduction permanente, les livres dits haut de gamme se trouvent de fait dans une concurrence inégale avec les best-sellers et la littérature commerciale pour l'accès aux points de vente. Qui plus est, vous savez peut-être que les éditeurs aux États-Unis ont une pratique d'achat des places pour les livres dans les vitrines et près des comptoirs, qui fait que ça facilite la distribution, la diffusion. Et puis, les espaces réservés à la critique littéraire dans la presse tendent à se restreindre, aux États-Unis comme en France d'ailleurs, ce qui réduit encore les chances d'ouvrages de fiction haut de gamme d'atteindre le public. Évidemment, ceci peut être contrebalancé par Internet, qui est un outil qui a été utilisé d'ailleurs pour, par ces petits éditeurs, j'en dirai un mot si j'ai le temps, enfin, qui défendent le principe de la traduction notamment. En tout cas, aux États-Unis, ces évolutions ont eu des conséquences négatives pour la littérature traduite. Je voulais vous donner quelques chiffres à méditer. Peu valorisées, les traductions ne se présentent souvent pas comme telles. Le fait que le livre est traduit est rarement indiqué sur la couverture, sauf chez les éditeurs qui militent en faveur de la traduction. Il faut cacher, camoufler le fait que c'est une traduction. Sinon, les chaînes de librairie risquent de dire « Non, merci, je ne prends pas ce livre parce que c'est une traduction », ce qui veut dire qu'il ne sera pas disponible dans les 1200 points de vente de la chaîne. Voilà. Or, ce problème d'accès aux points de vente touche tout particulièrement la littérature traduite parce qu'elle est réputée difficile à vendre. Et de ce fait, les réticences à publier des traductions sont de plus en plus grandes. Alors, il y a eu un rapport de Bowker sur l'édition et le commerce du livre qui montrait en 2004 que les traductions représentaient à peine plus de 3% des nouveautés publiées en anglais dans le monde, contre en France près de 20%. Alors, cette part relative des traductions dans la production nationale est un indicateur très intéressant. Elle augmente selon qu'on passe du centre vers la périphérie ou la semi-périphérie, c'est-à-dire qu'en Allemagne et en France, c'est entre 18 et 20% de la production nationale. En moyenne, hein, les traductions, en Italie, c'est 25%, en Espagne aussi 25%, enfin c'était en tout cas au début des années 90, Portugal 35%, et puis quand on va en Corée ou en Suède, ça peut atteindre 65% de la production nationale qui sont des traductions. Donc il y a un rapport inverse entre la centralité et la part des traductions dans la production nationale. Ce qui n'est pas simplement, ça n'est pas seulement le... Parce qu'on pourrait dire que c'est juste le reflet de la taille des marchés, de la production, mais ça n'est pas mécaniquement ce reflet-là. Il y a d'autres facteurs, il y a des facteurs culturels et politiques. Hein, on l'a vu dans le cas de la chute du russe après 89, qui était en partie lié au fait que l'État soviétique soutenait, finançait des traductions du russe vers d'autres langues. Mais ça veut dire que c'est un facteur politique. Voilà, en tout cas, le décalage est flagrant entre ce faible nombre de traductions dans la production littéraire américaine pour adultes et la part des traductions dans l'édition littéraire française. Alors, je vous ai dit que les traductions en français, ça représentait entre 18 et 20% de la production nationale, mais si on prend que la littérature, là, cette part est quasiment le double. C'est près de 40% de ce qui se publie en littérature, en nouveauté littéraire tous les ans, sont des traductions en français. Et de manière générale, la littérature, c'est un secteur à taux d'introduction très élevé, hein, partout dans le monde, parce que c'est là qu'il y a le plus de langues, le plus d'échanges, aussi en raison des traditions nationales, de l'existence de littérature nationale. Enfin, je n'ai pas le temps de développer ça ici, mais voilà. Alors, ce rapport Bowker avait suscité un grand débat aux États-Unis sur la question des traductions. Pour expliquer le faible taux de traduction aux États-Unis, les éditeurs et traducteurs invoquent des causes économiques et culturelles, alors soit dans les entretiens, soit dans les publications qu'ils font dans la presse. Alors, sur le plan économique, certains y voient l'effet direct de concentration et des concentrations et de l'imposition croissante de la logique de rentabilité. parce que l'édition est de plus en plus focalisée sur les blockbusters, et donc se désintéresse d'auteurs étrangers peu connus et difficiles à vendre. D'autant plus que la traduction requiert un investissement financier qui est souvent invoqué comme un obstacle à la traduction aux États-Unis. D'un point de vue strictement économique, la traduction apparaît en effet comme une prise du risque du fait du coût des droits, hein, et du prix de la traduction. Donc il y a d'un côté, pour la littérature contemporaine, pas pour les classiques, ça peut être dans le domaine public, donc il n'y a pas de droit d'acquisition. Mais sinon, si c'est un ouvrage contemporain, il faut acquérir des droits. Et en plus, il y a le prix de la traduction. Il y a aussi évidemment le travail éditorial et la difficulté à imposer un auteur étranger. Sur la question du coût qui est souvent évoquée, on peut objecter que les droits d'acquisition, ce qu'en font d'ailleurs certains sous-âges en français, demeurent en règle générale très inférieurs aux avaloirs réclamés par les auteurs américains. Parce que du fait de la médiation des agents sur le marché américain, pour démarrer n'importe quel projet de jeune auteur prometteur, donc premier livre, il faut mettre 50 000 dollars. Un éditeur devra payer à l'agent 50 000 dollars. 50 000 dollars, avec 50 000 dollars, on a un projet de traduction d'un grand auteur européen, comme me l'avait expliqué un petit éditeur, David Godin, qui, justement, lui, préfère publier des auteurs européens déjà consacrés que, comme il dit, des auteurs américains, des jeunes auteurs américains médiocres. Ce sont ces termes. Hein. En revanche, la traduction peut constituer un mode d'accès justement à l'édition littéraire et un mode d'accumulation de capital symbolique pour des éditeurs qui ne sont pas en mesure d'attirer des écrivains américains faute de moyens économiques. Hein, c'est justement ce cas de David Godin, qui est d'ailleurs l'éditeur qui était l'éditeur de L'Ecclésio aux États-Unis avant le prix Nobel, bien avant. Voilà, qui lui a lancé une collection de littérature étrangère à un moment où justement la chute des traductions était à son comble aux États-Unis. Enfin, il a tout fait à l'inverse. Alors, c'est une toute petite maison, ils sont 10 personnes. Voilà, donc lui, il préfère publier à moindre frais un auteur étranger déjà reconnu sur le plan international qu'un jeune écrivain américain dont l'agent réclame des avaloirs disproportionnés. Il avait précisé effectivement médiocre. Alors, du point de vue culturel, deux types d'obstacles à la traduction sont évoqués. Certains mentionnent l'absence d'éditeurs lisant les langues étrangères dans leur maison. Et ça, je pense que c'est un vrai facteur. Ça, c'est un facteur qui pèse énormément. Parce que les éditeurs du secteur commercial préfèrent souvent juger par eux-mêmes plutôt que de faire appel à des avis extérieurs. Hein, ça, c'est contrairement aux presses universitaires qui font toujours appel à des spécialistes, à des experts. Donc, ils préfèrent toujours lire par eux-mêmes, mais s'ils n'ont pas les compétences linguistiques au sein de la maison. Avant, dans l'édition américaine, il y avait toujours au moins un lecteur qui lisait le français et éventuellement un qui lisait l'allemand ou l'allemand ou l'espagnol et éventuellement encore une troisième langue. Alors, c'est vrai que ce phénomène tend à disparaître et en cela, il peut être aussi lié à la question de l'enseignement des langues et notamment de l'enseignement du français qui, je pense, vous intéresse ici. Et dont on sait qu'il est évidemment en baisse aussi. Mais ça montre aussi la transformation des compétences attendues d'un éditeur. Alors on peut dire aussi que dans l'édition française, souvent on n'est pas les compétences dans les langues étrangères. Ça, c'est une des caractéristiques des éditeurs, des pôles centraux quoi, de cet espace. Ils sont plus dans une démarche d'exportation que d'importation. Alors, de ce point de vue-là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux circuits, en fait. Dans le circuit de grande production, on fonctionne principalement à travers des agents, aussi pour la traduction. Alors que dans le circuit de production restreinte, les traducteurs ont un rôle très important de proposition. Hein, ils sont une force de proposition, ils sont reconnus pour leurs compétences. Et il y a tout un réseau international de petits éditeurs qui se transmettent les noms des auteurs intéressants, enfin, qui essaient de se renseigner sur ce qui vaut la peine d'être traduit. Donc il y a une fabrique de la réputation des auteurs qui se fait à l'international à travers ces réseaux. Et les traducteurs sont un des maillons de la chaîne, même s'ils ne sont pas toujours l'avis unique, mais on les consulte, ce qui n'est pas le cas au pôle de grande production. Alors, l'autre argument, celui qui est le plus fréquemment évoqué, concerne le désintérêt du public pour les traductions. Argument qui se décline à deux niveaux. Le constat du manque d'intérêt des Américains pour ce qui se passe hors de ses frontières en général et les attentes présumées du public américain. Alors, ce public est présenté dans ses discours comme un tout homogène, ce qui peut paraître surprenant au regard de la propension qui est très courante des éditeurs américains à cibler les publics à cibler les publics en fonction de leurs caractéristiques sociales. Ils sont très forts en général pour savoir cibler si c'est de la women literature, l'appartenance ethnique, communautaire, ou encore en fonction du capital culturel, avec l'opposition entre upmarket et popular. Or là, quand ils tiennent un discours sur les traductions, c'est toujours une sorte de public homogène, indistinct, le public américain. Et ce public américain rechercherait, tant dans la littérature que dans le cinéma, une, je cite, « satisfaction plus immédiate, des histoires plus tournées vers l'action », alors que par-delà les problèmes de référence locale qui se posent toujours dans la traduction, est-ce que si je traduis quelque chose qui se passe à Paris, on va comprendre les références? Bon, ça, c'est un problème réel que se posent les éditeurs, mais qui... j'ai interviewé, par exemple, Jean Materne, qui est un des responsables de la collection du monde entier chez Gallimard. C'est un problème qui ne fait pour lui obstacle que dans des très rares cas où là, c'est tout un univers religieux, par exemple, qui est vraiment trop compliqué pour le lecteur français qui ne connaît pas du tout ces références religieuses. Mais en général, la géographie locale, ça ne sera pas un obstacle. Au contraire, ça peut créer l'effet recherché de justifier la traduction d'une autre langue pour comprendre ce qui se passe dans une autre partie du monde, par exemple. Même si ce n'est pas ça, évidemment, le moteur premier, en général, c'est la qualité littéraire qui est mise en avant comme le moteur premier dans le cas de Gallimard. Alors ici, le discours des éditeurs, c'est de dire que, par-delà ce problème des références locales, les œuvres traduites seraient différentes par leur style même, elles seraient plus philosophiques et réflexive, elle nécessite de lire entre les lignes et de saisir des subtilités. C'est ce que formulait Laurie Brown, vice-présidente du service marketing et vente d'Harcourt Trade Publishers en 2003. Harcourt, qui était une grande maison littéraire qui avait beaucoup fait dans la traduction. Alors, vous voyez que toute la littérature traduite est mise dans une même catégorie. Alors, d'où viennent ces représentations? On retrouve cette opposition dans les discours sur la mort de la littérature française. Je ne sais pas si vous avez suivi cette discussion, si on peut appeler ça une discussion. Pour nombre d'éditeurs états-uniens que j'ai interrogés, le déclin de la littérature française semblait effectivement un phénomène avéré. Elle était assimilée au nouveau roman. Elle est généralement soupçonnée d'être formaliste et nombriliste. Argument qui est d'ailleurs repris dans le manifeste pour la littérature Monde en français. C'est pour ça que je disais qu'il était bien ajusté aux attentes du public américain, sachant valoriser les marges par rapport au centre et les formes plus narratives par rapport au formalisme supposé. Or, les éditeurs américains disent qu'ils attendent souvent d'un livre de fiction « total good story ». Et c'est le motif donc qui est le plus souvent invoqué pour justifier la rareté des traductions. Or, on se demande évidemment qu'est-ce qu'ils ont lu exactement de la production en langue étrangère. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, cette opposition ne tient aucun compte de l'hétérogénéité de la production littéraire dans les pays du monde, y compris en France. Et il traduit surtout, en fait, c'est une sorte de justification qui est mobilisée pour ne pas s'intéresser à la littérature écrite en français. Et puis, il y a un autre phénomène aussi. J'ai évoqué la revalorisation des marges ou de la périphérie francophone au détriment du centre parisien, qui masquait le fait qu'ils sont pour la plupart publiés par des éditeurs parisiens. Elle se manifeste aussi dans le processus de réception. Alors, d'un côté, on a vu que dans le champ éditorial d'origine en France, on masque la diversité des nationalités par l'homogénéité linguistique, le français, et par les conditions de publication. l'unification, la centralité parisienne, enfin qui n'est pas apparente, mais qui est en fait le principe unificateur. En revanche, du côté de la réception, cette diversité est mise en avant au point de masquer la langue d'origine et les conditions de production. Par exemple, Texaco de Chamoiseau a été classé dans une des critiques que j'ai lues dans la catégorie « littérature caribéenne ». Donc faisant abstraction du fait que c'était écrit en français et que Chamoiseau habite en France, habite Paris. Testament français de Makin a été traduit « Dreams of my Russian summers », donc faisait disparaître la référence aux Français, à la France. Et donc ce gommage répond à des attentes supposées qui accompagnent ce discours sur la mort de la littérature française. Alors pour en revenir à la marginalisation plus générale de la traduction dans l'édition américaine, l'idée que le public américain ne s'intéresserait pas aux ouvrages traduits, qui est largement répandue dans le milieu éditorial, relève plus de fait de la prophétie autoréalisatrice que d'une réalité qu'aucune enquête auprès du lectorat n'est jamais venue vérifier et que contredisent plutôt les très grands succès récents de Suite française d'Irène Némirovski ou de 1666 de Roberto Bolaño, dont l'éditeur m'a raconté qu'il avait eu beaucoup de mal à le faire prendre à Barnes & Noble, qui n'en voulait pas, parce que c'était une traduction et qui s'est vendue à 400 000 exemplaires. Hein, donc voilà. Et ou plus récemment de l'élégance du hérisson de Muriel Barberi, qui a été refusée par tous les éditeurs au motif que c'était trop local, évidemment une histoire de concierge parisien parisienne. Et de fait, ça a été publié par un petit éditeur italien qui a eu le culot de créer une antenne à New York et qui diffuse la littérature européenne, les éditions Europa, et qui a fait un succès énorme à l'époque, c'était déjà très vite 100 000 exemplaires. Voilà, 100 000 exemplaires vendus, et ça a été très longtemps dans les listes des meilleures ventes. Alors évidemment, quand on cite ces cas aux éditeurs dans les entretiens, ils disent toujours « oui, mais ça, c'était une exception ». Alors le cas de Némirovski, ça, c'était story, l'histoire de l'auteur. Bolaño aussi, c'était l'histoire de l'auteur. Il y avait une histoire à raconter à propos de l'auteur. Alors pour l'élégance du hérisson, il n'y avait pas d'histoire à raconter pour l'auteur, mais ça, ils ne savent pas. C'est vrai que les entretiens ont été faits avant ce succès, mais il le présente toujours comme des exceptions. De fait, donc, cette prophétie autoréalisatrice, elle est produite par des gatekeepers littéraires, c'est-à-dire les éditeurs, les critiques, peu familiers des littératures étrangères, qui préfèrent, comme nous l'a dépeint un éditeur sur un mode caricatural, parler d'un jeune auteur américain qu'ils ont rencontré à un cocktail la semaine précédente, plutôt que d'un obscur écrivain hongrois. Et elle provient aussi du pôle commercial des maisons d'édition, les départements de marketing, les représentants et des chaînes de librairies. Or, comme l'a formulé le sociologue américain W.I. Thomas dans son théorème, quand les hommes considèrent certaines situations comme réelles, elles sont réelles dans leurs conséquences. Hein, et effectivement, on voit que la croyance induit des comportements qui finissent par rendre la situation vraie. Hein, c'est le propre de la prophétie autoréalisatrice. Ce théorème est repris par Robert Merton dans son analyse ça a été traduit en français prédiction créatrice, mais c'est self-fulfilling prophecy, c'est prophétie autoréalisatrice, c'est plus juste comme traduction. Alors il y a malgré tout sans doute une part de vérité dans le constat d'une plus grande fermeture du public américain aux littératures étrangères, mais cette fermeture tient avant tout à la position dominante qu'occupent les États-Unis dans l'espace culturel transnational. Et d'ailleurs on peut considérer que la France était aussi assez fermée à l'étranger pendant très longtemps, pendant la période où elle a été très dominante. Hein. Alors cette explication articulée aux logiques économiques que j'ai évoquées permet de rendre compte de la baisse proportionnelle des traductions dans l'édition américaine dans les années 70, alors qu'elles ont augmenté partout ailleurs. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce débat autour des 3% a malgré tout suscité une mobilisation d'éditeurs et de traducteurs en faveur de la traduction, qui est désormais conçue comme une cause non seulement littéraire, mais aussi politique. Et donc ce combat se situe à deux niveaux, hein, la lutte contre la domination de l'anglais et la volonté de faire entendre d'autres voix. À l'époque, l'éditrice Jill Schulman, qui a fondé une maison à but non lucratif sous le nom d'Archipelago Books, où elle a traduit notamment Pierre Michon, expliquait dans un entretien qu'elle a donné à Libération « Nous n'avons jamais été aussi isolés du reste du monde. Nous vivons dans un empire qui préfère exporter plutôt qu'importer, qui a une écoute et une vision sélective, même quand il s'agit d'art et de littérature. En cette époque inquiétante, c'est aux petites maisons d'édition indépendantes de créer un espace pour que la littérature du monde soit présente dans les bibliothèques de ce pays. » Et donc ce combat a été engagé par une nouvelle génération d'éditeurs indépendants. On aurait pu penser que, avec les importateurs des littératures étrangères aux États-Unis, c'était les André Chiffrin, c'était les émigrés d'Europe qui connaissaient cette littérature, qui était multilingue. Et on aurait pu penser que si ce vivier se tarit, il n'y aura plus de traduction. Et en fait, cette nouvelle génération d'éditeurs, j'en ai rencontré un certain nombre, ils ne sont pas particulièrement immigrés, ils ne parlent pas particulièrement d'autres langues ou très vaguement, mais ils sont intéressés par cette ouverture et ils se sont alliés avec le Pen Club, la section américaine du Pen Club, qui organise des rencontres. Ils ont créé un festival, le Pen Voice Festival, qui s'est doté aussi d'un site qui est baptisé 3%, en référence à la faiblesse du taux de traduction aux États-Unis, et d'une revue en ligne, Word Without Borders, qui vise à promouvoir une globalisation des échanges en important des voix d'autres langues aux États-Unis, comme le dit son manifeste, que je ne vous lirai pas ici. Donc vous voyez que si la traduction se heurte à des obstacles croissants auprès des grands éditeurs américains, elle est devenue, dans ces dernières années, une cause inséparablement littéraire et politique pour toute cette nouvelle génération d'éditeurs qui prend le relais des prestigieux aînés dans l'importation des littératures étrangères. Donc malgré les différences... Vous voyez qu'il y a une homologie structurale entre le pôle de grande production des champs éditoriaux américains et français, hein, même si en France, justement, il y a beaucoup de traductions, alors qu'il n'y en a pas aux États-Unis, mais c'est parce qu'il y a une domination de l'anglais dans les deux cas. Et puis, au pôle de production restreinte, il y a une forte diversité linguistique et culturelle qui est due à cette défense de la traduction qui a été de plus en plus reformulée en termes de diversité. Est-ce que j'ai le temps de dire quelques mots de la traduction en sciences humaines et sociales ? Hein ? Voilà. Alors, dans le domaine des sciences humaines, on retrouve les mêmes types d'obstacles à la traduction qu'en littérature, mais ils prennent là des formes spécifiques. Les obstacles économiques, le rapport de force entre les cultures, qui varie selon le domaine concerné, les différences entre les champs éditoriaux, les modes d'accumulation de capital symbolique... je vais utiliser une base de données qui n'est pas fiable, mais je n'ai pas d'autres données parce que c'est plus difficile à constituer sur les sciences humaines. Donc c'est une base de données constituée par le Bureau du Livre français à New York qui recensait 539 titres de sciences humaines traduits du français en anglais aux États-Unis entre 1990 et 2007. Je pense que c'est largement incomplet parce que sur la littérature, j'ai vérifié et ça ne représentait qu'un tiers de ce qu'on a pu recenser au niveau de l'index Translationum. Mais ce qui est défini comme sciences humaines dans l'index Translationum ne correspond absolument pas à notre définition et donc ça demanderait un travail de tri qu'on n'a pas été encore en mesure de faire, faute de moyens. Alors, la traduction implique un coût élevé et une faible rentabilité à court terme. On traduit plutôt des ouvrages qui ont subi donc, un processus de sélection. Et si les sciences humaines françaises s'exportent relativement bien, y compris aux États-Unis, plus d'ailleurs qu'en Angleterre, où les grands éditeurs traditionnels comme Oxford et Cambridge ont quasiment renoncé à traduire des ouvrages contemporains. J'ai fait un entretien il y a 15 jours, ou il y a quelques semaines, avec Cambridge University Press. Ils traduisent encore un petit peu, mais enfin, ça a énormément baissé depuis les années 90, et c'est pas prêt de remonter, d'après ce qu'il m'a dit. Donc les obstacles économiques se sont durcis dans les deux dernières décennies parce que les presses universitaires, secteur où sont confinées les sciences humaines et sociales dans l'édition anglo-américaine, ça c'est aussi une grosse différence avec la France où on trouve les sciences humaines et sociales dans le secteur de l'édition généraliste, on trouve encore, je ne sais pas pour combien de temps, mais... Donc, même les presses universitaires, qui sont pourtant à but non lucratif, sont de plus en plus soumises à des contraintes économiques. Et le modèle donc de fonctionnement du pôle de production s'impose de plus en plus au pôle de production restreinte. Alors notamment, il y a l'intervention des représentants du département de marketing dans la décision de publier un livre. C'est-à-dire qu'un éditeur qui décide de traduire un livre, il faut qu'il expose, avant que la décision soit prise, que le contrat soit signé, il faut qu'il expose son plan marketing devant les représentants du secteur marketing qui va lui dire « mais à qui est-ce que vous allez vendre ce livre ?» Alors les chances d'accès d'un livre de sciences humaines à la traduction dépendent de cinq principaux facteurs que j'ai essayé de mettre à jour. Le capital symbolique collectif accumulé par une discipline ou un domaine dans une langue, je vais les détailler ensuite. Le capital symbolique individuel enfermé dans le nom de l'auteur. Le capital symbolique de l'éditeur. Le contenu et le capital social de l'auteur. Alors d'abord, le capital symbolique collectif accumulé par une discipline, dans une certaine langue, témoigne de la relative autonomie de la circulation des livres de sciences humaines et sociales par rapport aux logiques de marché. Parce que les disciplines les mieux représentées parmi les traductions de sciences humaines du français en anglais qui sont publiées aux États-Unis sont en premier la philosophie et ensuite l'histoire. Alors, j'ai mis un tableau. Vous pouvez voir aussi la part des États-Unis par rapport au total dans cette base, mais encore une fois, ces chiffres ne sont pas fiables, donc je vous les donne vraiment à titre indicatif. Ce qui est intéressant, c'est la hiérarchie, en fait. D'abord la philosophie, ensuite l'histoire. Bon, bien sûr, ça s'explique en partie par la place importante du livre dans ces disciplines. Il y a plus de livres produits dans des disciplines, à la différence de sciences comme l'économie et la psychologie, où la diffusion passe principalement par les articles. Et d'ailleurs, en psychologie, ce qui s'exporte, c'est surtout la psychanalyse, qui est une niche très intéressante pour les traductions du français. C'est le cas pour les traductions au Royaume-Uni, notamment. Et il y a aussi une niche comme ça en Amérique latine, en Argentine notamment. C'est la part des disciplines dans les livres qui sont traduits du français en anglais pendant la période de référence. Donc je compare les États-Unis au total des traductions en anglais sur cette base-là, dans cette base-là. Mais cette base, je pense que c'est un peu plus fiable pour les États-Unis que pour les autres pays. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, c'est aux États-Unis qu'on traduit le plus de sciences humaines du français. Donc de toute façon, les données américaines sont les plus intéressantes pour nous. Alors l'anthropologie, la sociologie et la science politique occupent dans la production scientifique française traduite une position intermédiaire entre ces deux tendances, entre la philosophie de l'histoire d'un côté et puis l'économie et la psychologie de l'autre. Mais elles semblent sous-représentées parmi les ouvrages traduits en anglais. Et ça tient sans doute en partie pour la sociologie et la science politique au fait que les objets de ces disciplines sont souvent ancrés dans la réalité nationale. Donc plus on est dans des objets empiriques et ancrés dans des réalités nationales, plus c'est difficile à exporter, alors que le discours philosophique est plus généraliste et plus facile à exporter. Alors il y a certains thèmes, et ça renvoie plutôt au contenu, qui peut intéresser momentanément, comme la nouvelle judéophobie à un moment donné, qui peut rencontrer un intérêt outre-Atlantique auprès d'un public plus large. Mais ça tient aussi au fait que la production en langue anglaise est très importante dans ces domaines et aussi que la sociologie et l'anthropologie américaines sont dominantes sur la scène internationale. Mis à part le cas de Bourdieu, qui lui est... Enfin, tous les ouvrages sont traduits et sur lesquels j'ai fait une étude spécifique. Donc, qui est le sociologue le plus cité, contemporain le plus cité... au monde et voilà mais donc alors qu'en philosophie les traditions allemandes et françaises continuent à exercer une hégémonie donc en sociologie et en anthropologie la tradition américaine étant dominante elle importe moins, elle s'intéresse moins à ce qui se produit à l'étranger alors que la philosophie la philosophie, aussi bien pour l'Allemagne que pour la France, continue à être un domaine dont on traduit beaucoup. et plus le français d'ailleurs vers l'anglais actuellement. Mais j'ai pu constater aussi, quand j'ai travaillé sur les traductions de sciences humaines en français, que la philosophie allemande arrivait en tête des traductions et dépassait les traductions de l'anglais dans le domaine de la philosophie, parce que justement elle jouissait d'un plus grand prestige, capital symbolique que la philosophie américaine, qui n'est reconnue comme philosophie en France que depuis pas très longtemps. Alors, plus accessible, la philosophie française de la seconde moitié du XXe siècle s'est implantée dans les départements littéraires aux États-Unis à un moment où ils étaient en crise. Vous savez qu'elle a été, je renvoie au livre de François Cusset sur French Theory, elle a été importée par les départements littéraires contre la philosophie analytique qui était considérée comme dépolitisée, et à un moment où ceux-ci étaient en crise et se sont réorganisés autour de cette importation de la French Theory. Et puis ça a permis évidemment de se démarquer d'un côté donc de la philosophie analytique, de l'autre du positivisme prédominant dans les sciences sociales à cette époque, hein, aux États-Unis. Enfin, c'est toujours d'ailleurs. Ce qu'ils appellent le positivisme, ce n'est pas la définition française du positivisme, mais c'est le positivisme au sens de référence scientifique, hein, de prétention à la scientificité. Qui aussi se présente comme dépolitisé. Alors, le capital symbolique individuel, qui est enfermé dans le nom de l'auteur, c'est une des mesures de la grandeur, si on peut dire, qui se transfère automatiquement du nom propre aux œuvres qui lui sont associées. Ça peut être illustré dans le cas des auteurs de la French Theory, notamment Barthes, Derrida et Foucault, qui sont encore parmi les auteurs de sciences humaines les plus traduits aux États-Unis. Dans les années 90, il en va de même, par exemple, pour Julia Kristeva, dont tous les livres continuent de paraître en traduction chez Columbia University Press. Donc, ce n'est pas le livre qui est jugé en soi, c'est le fait que ce soit le livre de cet auteur qui est automatiquement, en fait, quasi automatiquement traduit. Il y a aussi Deleuze et Althusser, bien sûr. Alors, ce capital symbolique personnalisé n'est pas complètement indépendant du précédent, c'est-à-dire du capital symbolique du domaine et dans une langue particulière, hein, parce que les chances d'accéder au statut de grand auteur varient selon le prestige dont jouit la tradition nationale dans laquelle s'inscrit l'auteur dans le domaine concerné. Ici, c'est la philosophie française. Alors, l'accumulation de capital symbolique pour ces grands noms opère selon l'effet Saint-Mathieu décrit par Merton, comme j'ai pu le montrer dans le cas de Bourdieu, c'est-à-dire plus on traduit. Donc la circulation internationale conduit à accroître ce capital symbolique, car être traduit dans une autre langue est une consécration qui démultiplie la notoriété. Toutefois, le pouvoir de consécration à l'échelle internationale est inégalement réparti entre les pays, et les États-Unis jouissent à ce titre d'un crédit bien supérieur aux autres, qui ne tient pas seulement au rôle de l'anglais comme langue véhiculaire, mais aussi à la domination américaine, à la fois sur le marché mondial du livre et dans l'espace académique international. Donc ce sont des phénomènes différents et qu'il faut étudier de manière empirique pour chaque chose, mais ici, il peut y avoir des effets redoublés, parce que la logique éditoriale a sa propre logique, la logique académique a la sienne, mais ce qui est mis à l'agenda intellectuel, très souvent, est dicté par les États-Unis, et on voit en France comment maintenant c'est de plus en plus dicté, ce qui n'était pas le cas avant les années 90, hein, par l'agenda intellectuel américain. Et en fait, comme vous savez, pour la diffusion de la French Theory, ce qui a fait la répercussion mondiale de la French Theory, c'était sa réception aux États-Unis. Elle a été centrale dans cette diffusion. Ce n'est pas passé de la France vers les autres pays directement, mais très largement par cette consécration américaine. Ce qui n'empêche pas qu'il existe, il y a des traditions d'échange, et il y a des traditions d'échange très anciennes avec beaucoup de pays, avec l'Allemagne, avec l'Italie. Mais c'est vrai que de plus en plus, même pour l'Italie, j'ai constaté que c'était médiatisé par... les États-Unis, les noms qui émergeaient, l'intérêt, voilà. Alors les œuvres de ces grands auteurs font aussi l'objet de rééditions permanentes sous forme de recueil. Donc, ce n'est pas seulement la traduction de titres d'inédits ou de titres pas encore traduits, mais rééditions permanentes, nouveaux recueils. Et les éditeurs reconvertissent ce capital symbolique en capital économique et le font fructifier. Mais ce qui est intéressant, c'est que le capital symbolique l'emporte très souvent sur le capital économique. Par exemple, les éditeurs continuent à publier des ouvrages de ces auteurs, même lorsqu'ils ne vendent pas beaucoup d'exemplaires. C'est-à-dire que c'est important pour eux de les avoir au catalogue. De ce fait, d'ailleurs, les éditeurs américains, comme les éditeurs anglais, cherchent constamment de nouveaux noms. Alors, quand on va les interviewer, on dit « Alors, c'est qui les auteurs qu'il faut traduire ?» Voilà. Alors, ils cherchent de nouveaux grands penseurs français. Ils en ont trouvé... Il y a quelques noms qui ont émergé ces dernières années. Alain Badiou, Jacques Rancière... Alors, c'est intéressant de voir que, mis à part Bourdieu, dont l'œuvre comprend aussi une importante part théorique, il s'agit d'œuvres spéculatives qui, comme je l'ai dit, voyagent plus aisément que les études empiriques. Alors, le capital symbolique de l'éditeur, c'est une variable non négligeable, je pense, dont le poids s'observe pas seulement dans le domaine littéraire. On l'a vu dans le domaine littéraire avec la concentration de Gallimard, dans l'exportation de la littérature française, les 29%. Et ça joue aussi dans le secteur des sciences humaines et sociales. Et dans ce domaine, ce sont les éditions du Seuil qui arrivent en tête des titres traduits aux États-Unis. Encore une fois, selon ces données qui ne sont pas complètement fiables. Ça représentait 13% de l'ensemble. C'était suivi de Galilée, mais Galilée, évidemment, c'est l'éditeur de Derrida, donc ça explique pourquoi. Puis Gallimard, seulement là, en 9%. Puis Fayard, 6%. Puis les PUF, 5,6%. Donc là, vous voyez que la place d'un éditeur savant comme les PUF, elle arrive en cinquième position et vous ne trouverez pas de presse universitaire sur la liste des auteurs traduits du français en anglais. Alors, évidemment, ce capital symbolique, là encore, n'est pas indépendant de celui des auteurs qui figurent à leur catalogue. C'est le cas de Galilée. Le Seuil s'est imposé internationalement dans ce domaine en tant qu'éditeur de Barthes et de Lacan, puis de Bourdieu. Mais ce transfert a permis à la maison de se construire hors de ses frontières une image d'éditeur novateur de sciences sociales. Et que ce soit des éditeurs généralistes plutôt que des maisons d'édition savantes comme les PUF qui arrivent en tête, y compris dans le domaine des sciences humaines et sociales, rappelle donc ce décalage entre les champs éditoriaux nationaux que j'ai déjà mentionné pour la littérature qui induit beaucoup de décalage dans les pratiques parce que souvent les éditeurs, les presses universitaires se trouvent à négocier en fait avec des grands éditeurs qui sont pour eux des éditeurs commerciaux et donc là ils sont un peu paniqués parce qu'ils n'ont pas les habitudes, c'est pas les mêmes rythmes, c'est pas la même temporalité, ils n'ont pas la même... donc ça crée des tensions. Alors j'ai dit aussi qu'il y avait la question du contenu et concernant les études empiriques, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui intéresse à un moment donné parce que les thèmes vont varier selon les modes du moment. Mais on peut quand même décomposer cette variable en plusieurs aspects, le thème, le traitement et l'écriture, parce qu'il y a un intérêt pour certains thèmes qui, comme je disais, varient dans le temps et dans l'espace. Selon les tendances ou les modes éditoriales, il y a eu un moment où c'était le génome en science ou la Deuxième Guerre mondiale qui ont suscité un vaste intérêt dans l'édition américaine jusqu'à ce que le marché arrive à saturation ou que l'intérêt décroisse. En même temps, chaque champ tend à chercher ailleurs ce qui... Alors maintenant, c'est la religion, par exemple, ça c'est très en vogue. Il y a des décalages entre les pays sur les thèmes en vogue. Par exemple, la nourriture, quand c'était très en vogue aux États-Unis, ça n'était pas encore en France. Donc il n'y avait pas forcément les productions qui répondaient. Donc ils cherchaient avec des lanternes ce qui pouvait répondre à leur agenda. Voilà. Et en même temps, chaque champ tend à chercher ailleurs ce qui n'est pas produit dans l'espace intellectuel national. Alors par exemple, la théorie critique pour les États-Unis, alors qu'un auteur comme Jacques Bouveresse, qui est un importateur cardinal de la philosophie analytique en France, n'est quasiment pas traduit aux États-Unis. Et alors, on peut prendre l'exemple de ce qui a été labellisé comme French féminisme aux États-Unis. En fait, il s'agit des théories différentialistes qui, dans certains cas, ne se réclamaient d'ailleurs même pas vraiment du féminisme, alors que les écrits des féministes et égalitaristes françaises n'ont pas connu un tel écho outre-Atlantique, parce que la production locale était abondante en la matière. Donc, ils n'avaient pas besoin de ça. Ce qui était différent, c'était ce qu'ils ont appelé ce French féminisme, ce différentialisme. Voilà. Alors, par exemple, la France est une lucarne pour l'étude sur les mondes arabes, parce que il y a une production plus importante. Voilà, on cherche les travaux sur le Proche ou le Moyen-Orient. Voilà. Évidemment, il y a la question aussi de l'intérêt que ça peut avoir pour le pays d'accueil, et notamment un livre comme « L'ennemi américain » de Philippe Roger, qui a été traduit à l'University of Chicago Press, intéresse parce que ça parle des États-Unis. Hein. Ça va un peu de soi. Mais c'était intéressant parce que ça parlait des États-Unis du point de vue de la France, parce que pour parler des États-Unis, ils ont suffisamment de producteurs locaux. Hein. C'est toujours assez subtil. Alors, donc ça, c'était pour le contenu, mais l'originalité, c'est aussi un facteur qui varie entre champ éditorial et champ académique, et puis au sein des disciplines de sciences humaines et sociales, hein, c'est pas les mêmes. Alors, c'est toujours difficile un peu à formaliser. Concernant l'écriture, je voulais m'y attarder un instant parce que les attentes éditoriales dans la tradition anglo-américaine privilégient là aussi la question narrative. Et c'est intéressant parce que ça ressort dans les entretiens. On privilégie l'écriture fluide, narrative, storytelling, accessible, selon le système Oxbridge, par exemple. C'est ce qu'expliquait un éditeur qui travaillait pour une presse universitaire. Et il opposait ce type d'écriture à la méthode continentale qu'il décrivait comme structurale. Donc vous voyez qu'on trouve un équivalent à ce qu'on décrivait pour la littérature sur le formalisme et sur la dimension narrative et compte aussi pour les sciences humaines et sociales. Cela dit, bon, c'était surtout pour l'histoire, parce qu'évidemment, c'est pas pour la philosophie, c'est pas exactement le critère. Alors, parmi les critères formels susceptibles de faire obstacle, il y en a un qui est évident, et on peut faire un rapport entre ce qui se traduit et la taille du livre. Hein, c'est donc la question du nombre de pages, parce que selon la tradition éditoriale anglo-américaine, les livres courts, c'est-à-dire moins de 400 pages, ont plus de chances d'être publiés et traduits que les longs, même lorsqu'ils répondent à tous les autres critères. Mis à part ceux des grands auteurs qui seront traduits à partir du moment où on accède à cette reconnaissance comme grand auteur. Alors, un mot sur le capital social de l'auteur, qui est aussi une variable non négligeable pour mesurer les chances d'accès à la traduction. Parce que, finalement, les projets de traduction présentés aux presses universitaires sont tantôt portés par l'éditeur français, tantôt par des collègues américains. Et là, les intermédiaires sont très importants. Du coup, ce capital social n'est pas une variable indépendante. Il est souvent le fruit de l'accumulation de capital symbolique au sein du champ académique, qui se traduit par des invitations à l'étranger pour des colloques ou conférences, à partir desquels se tisse un réseau de relations. Et s'il a souvent plus d'impact que l'action des responsables des services de droit étranger des maisons d'édition, surtout les grandes, pour faire traduire un livre de sciences humaines, il n'est pas une condition suffisante et il se combine avec les facteurs de contenu que j'ai évoqués précédemment. Alors cette variable joue notamment lorsqu'est envisagée la promotion du livre, parce que ça c'est quelque chose qui est très important pour les éditeurs anglo-américains, c'est la présence de l'auteur. En littérature comme en sciences humaines, ils veulent que l'auteur soit là quand le livre sort en cas de traduction, et ils veulent qu'il soit capable de répondre à des entretiens, d'aller présenter son livre devant le public. Et là, évidemment, il y a la question de la compétence linguistique qui entre en ligne de compte. Et puis, ce qu'ils appellent, dans les termes plus de l'édition commerciale américaine que décrit Thompson, ce qu'on appelle la plateforme de l'auteur, hein, c'est-à-dire son audience potentielle en fonction de ses réseaux. Voilà, tout ça sont des conditions qui s'ajoutent à sa réputation ou à l'intérêt thématique du livre et qui souvent, lorsqu'elles font défaut, peuvent décourager l'éditeur d'entreprendre un projet de traduction. Alors, on voit que les obstacles à la traduction d'œuvres de sciences humaines et sociales, dont la qualité, la grandeur est reconnue, varient de la forme de l'écriture, identifiée dans les représentations des éditeurs, à un style national ou continental, à la distance géographique et culturelle de l'auteur, en passant par le coût, voilà, ces différents obstacles pouvant être mentionnés par une même personne. Alors pour conclure, la circulation des ouvrages en traduction entre la France et les États-Unis témoigne de l'asymétrie des échanges éditoriaux, non seulement entre deux pays, mais aussi plus largement entre deux aires linguistiques. À l'ère de la mondialisation, la domination anglo-américaine sur le marché mondial de la traduction s'est renforcée, ce qui a entraîné un affaiblissement de la position du français. Néanmoins, outre les classiques qui se maintiennent aussi bien dans le domaine de la littérature que des sciences humaines et sociales, le français continue d'exister dans le domaine de la littérature upmarket, comme on l'a vu, et dans celui des sciences humaines et sociales, à la faveur d'une réorientation des stratégies des éditeurs français. J'en ai pas parlé, mais il y a eu une adaptation, un ajustement qui s'est fait. Ils ont commencé à faire des contrats en anglais, ils ont recruté des gens dans les services de cession qui étaient anglophones, qui a facilité la communication avec l'étranger, sachant qu'il y a une autre variable que j'ai pas mentionnée, c'est que le système français ne fonctionne pas par agent et que du coup, ça complique aussi la communication avec des éditeurs qui ont l'habitude de fonctionner, de discuter avec des agents. Et puis, réajustement aussi des politiques d'aide pour mieux prendre en compte la demande. Paradoxalement, loin de connaître une dissolution, vous avez vu que la notion de littérature nationale s'est réaffirmée à l'ère de la mondialisation, sous l'effet de l'implication des États dans les politiques d'aide, notamment, et pas seulement de littérature nationale, mais aussi de pensée nationale, hein, parce que voilà, c'est la philosophie française, c'est peut-être moins vrai de d'autres disciplines, encore que je pense qu'il y a aussi l'idée d'une sociologie française, d'une histoire française, enfin voilà. Alors, comme on l'a vu dans le cas du français, le réaménagement de ces politiques pour prendre en compte une plus grande diversité entraîne un brouillage avec cette notion de littérature française qui fait écran à une réalité bien plus complexe et hétérogène, qui est le produit non seulement de l'histoire culturelle nationale, mais aussi de celle des aires linguistiques, hein, le colonialisme, l'impérialisme culturel, et plus largement celle du marché mondial du livre et de l'espace littéraire transnational, régi par des rapports de force inégaux entre centre et périphérie. L'édition opérant une médiation entre ces trois niveaux. Sous ce rapport, le cadre national fait aussi écran au rôle central des villes, en l'occurrence Paris ou New York, qui concentrent toutes les espèces de capitaux économiques, sociaux et symboliques ayant cours sur le marché de la traduction littéraire et aussi pour les sciences humaines. L'évolution récente des échanges littéraires entre la France et les États-Unis est, on l'a vu, en partie le résultat du renversement du rapport de force entre Paris et New York depuis les années 70 et du transfert du pouvoir de consécration de Paris à New York. Mais fort de son prestige passé, on peut dire que Paris conserve un tel pouvoir de consécration, même s'il est atténué, sur le marché mondial de la traduction, notamment par le biais d'une concentration éditoriale exceptionnelle, d'une tradition de brassage des cultures et aussi du rôle véhiculaire de la langue française. Mais son rôle médiateur dans l'introduction d'œuvres issues de la périphérie sur la scène internationale par la traduction ou par la publication directement en français, parce que j'ai oublié de mentionner que le français était aussi un moyen d'accès pour les éditeurs étrangers, notamment anglais, à des langues périphériques pour lesquelles ils n'auraient pas de lecteurs, par exemple le coréen ou beaucoup aussi l'arabe. Donc on attend que le livre soit traduit en français pour pouvoir le lire et alors on va décider si on le traduit. Donc ce rôle d'intermédiation est condamné cependant à l'invisibilité tant que le cadre national prédominera dans la perception des échanges littéraires. Voilà. Alors reste la question du dépassement du cadre national, peut-être qu'il s'esquisse en partie avec la mise en place d'une politique européenne de la traduction, qui traduit en action collective l'idée d'Umberto Eco selon laquelle la langue commune de l'Europe, c'est la traduction. Mais il est clair qu'il y aurait une nécessité de développer des échanges avec les zones qui sont actuellement exclues de ces échanges. Et là encore, j'en ai pas parlé, mais c'est un point très important, c'est qu'il y a des zones entières, et notamment en Afrique, qui sont exclues de ces échanges, de cette circulation, tout simplement à cause du faible développement de l'édition et que ça reste considéré comme des débouchés pour les anciens centres des États coloniaux. Et ça devient d'ailleurs des zones de lutte avec les États-Unis, parce que les États-Unis essaient de développer une stratégie pour revendre, racheter des traductions de l'anglais en français pour pouvoir les vendre à bas prix dans le Maghreb ou dans les pays africains pour pouvoir diffuser la pensée anglo-américaine comme ils l'ont fait en Europe de l'Est dès avant la chute du communisme. Donc c'est un enjeu de lutte, mais plutôt que de penser en termes d'hégémonie de la pensée française ou de la pensée américaine, de lutte entre grandes puissances, je pense qu'il serait intéressant de réfléchir à des structures qui, par exemple, de coédition qui favoriseraient le développement de l'édition locale en Afrique. D'ailleurs, les éditeurs québécois ont bien compris ça et s'est développé dans un des articles, une des contributions au volume Les contradictions de la globalisation éditoriale, où il y a des stratégies d'éditeurs québécois qui contournent le centre parisien en faisant des coéditions avec des éditeurs africains. Donc le développement de l'édition est aussi crucial. Par exemple, il n'y a quasiment pas de traduction qui circule dans les pays africains. Voilà. Alors, bon, pour la question du Maghreb, se pose aussi la question de la langue. Mais là, je pense qu'on a un spécialiste dans la salle. Donc, je m'arrête là et peut-être qu'on a... J'ai parlé un peu longuement.
Merci beaucoup pour cette conférence extrêmement dense et néanmoins très claire, il me semble. Donc, merci beaucoup. Quand on est un auteur francophone qui écrit en français, est-ce que la consécration internationale va passer donc nécessairement par la traduction en anglais ?
Elle passe d'abord par la publication à Paris, hein, en gros. C'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est-à-dire qu'il y en a très peu finalement qui soient traduits aux États-Unis, qui ne soient pas publiés à Paris. Ah oui, de manière au-delà de. Mais je pense que le tremplin, le premier tremplin. Ah oui, pour avoir le prix Nobel. Oui, bien sûr. Ça, c'est. Je pense que l'anglais. En tout cas. Historiquement, ce qu'on peut dire, c'est que historiquement, je pense que la consécration des auteurs de la périphérie francophone, pour parler en termes de centre-périphérie au sens purement éditorial que j'ai évoqué, passe par. Donc, la première étape, c'est la publication. Parisienne, et la deuxième, effectivement, historiquement, elle est en gros passée par la réception aux États-Unis, qui a valorisé beaucoup plus qu'elle n'était valorisée en France, cette production. Donc, bon, il y a des travaux qui sont menés, il y a des travaux en cours de Claire Ducournau sur la réception, notamment dans les départements d'études francophones aux États-Unis, qui ont joué un rôle très important. Et on n'a pas l'équivalent en France, hein. C'est récent, l'introduction des études. Enfin, des auteurs, de ces auteurs dans les cursus universitaires français, enfin dans les cursus scolaires. Ça a été antérieur aux États-Unis. Donc, alors, il n'y a pas que ça. Il y a évidemment les prix, il y a le rôle de la francophonie. Enfin, il y a d'autres facteurs qu'on peut mettre en avant. Mais je pense que, en tout cas, l'édition américaine a joué un rôle dans cette diffusion, dans le fait de faire accéder ces auteurs à la scène internationale. Ouais.
Bonjour. Donc, en fait, je me posais une question sur le positionnement particulier que peut avoir un auteur américain écrivant en français, comme Jonathan Little, par exemple.
Oui. Alors, son positionnement particulier, je peux le décrire en termes financiers, parce que son agent a vendu les droits des Bienveillantes à HarperCollins pour $1 million de dollars, ce qui était quelque chose quasiment sans précédent. Donc là, on voit un mélange de pratiques qui sont plus liées à l'édition anglo-américaine. Aussi, évidemment, on pourrait penser au choix du sujet, on pourrait penser au traitement du sujet, enfin, on pourrait faire une analyse dans cette perspective que vous évoquez, qui est extrêmement intéressante. Voilà. Donc, je pense que ça serait intéressant de mener une enquête dans ces termes. Voilà. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais je pense qu'il a... Il a Enfin, c'est assez révélateur ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant, c'est que donc il a été vendu à ce prix-là et que. Donc s'il a été vendu à ce prix-là, c'est qu'ils pensaient rentrer dans leur fonds. Et ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que ça stagnait à l'époque, au bout de 2 ans, à 40 000 exemplaires, quelque chose comme ça, qui était loin du compte. Mais l'éditeur a justifié son choix en utilisant les arguments du pôle de production restreinte et en disant c'est un auteur, c'est un grand écrivain, c'est un auteur qui va devenir classique, qui va rentrer dans les cursus académiques et donc qui va devenir un long-seller. Et de toute façon, je l'ai pris pour sa qualité, et évidemment, non pas pour les questions de rentabilité.
Oui, j'avais une question qui est un petit peu double. Qu'est-ce que vous diriez de la qualité des traductions françaises aux États-Unis et de la condition du traducteur, pour reprendre le titre du rapport Assouline ? Parce que je crois que les deux sont quand même un peu liés.
Oui.
Alors Assouline dit en grosso modo qu'en France, c'est en train de se dégrader, mais que c'est quand même nettement mieux que par exemple en Italie ou en Espagne. Alors qu'en est-il aux États-Unis ?
Eh bien, c'est assez catastrophique, je dois dire. D'abord, la condition du traducteur va vers la déprofessionnalisation. Et j'avais participé, on m'avait demandé d'introduire justement un débat avec des traductrices. C'était des traductrices sur cette question. Le Pen Club a été mobilisé à un moment sur cette question de l'unification du statut du traducteur, de la revalorisation du statut du traducteur. Et les conditions de travail des traducteurs, elles sont extrêmement hétérogènes. Ceux qui ont déjà un nom, une réputation, on est prêt à payer le prix. Mais en fait, quand on cherche à faire des économies, c'est souvent dans ce domaine, à ce niveau-là. Et ça donne, en termes de qualité, effectivement, des catastrophes. Alors, je ne veux pas dire que le nom du traducteur, enfin, le fait d'être un traducteur réputé suffit à assurer la qualité, parce que les traducteurs utilisent, parfois, ce qu'on appelait autrefois pour les écrivains des nègres, c'est-à-dire ils font faire les traductions par d'autres personnes, et donc ça peut donner aussi bien des catastrophes quand on fait appel à un traducteur spécialiste. Parfois c'est contractuel, parfois l'éditeur le sait, ça se pratique en France, hein, et même en sciences humaines. Et parfois l'éditeur ne le sait pas et le découvre à son grand dam. Quand il relit la traduction. Mais encore faut-il la relire. Et c'est ce travail de relecture et ce travail de réécriture, de rewriting, hein, il y a un concept en anglais pour ça, c'est une définition d'une tâche, hein, le rewriting, se pratique principalement au pôle commercial, là où on pense qu'on va vendre, c'est-à-dire on n'investit pas, donc là où on en aurait le plus besoin, au pôle le plus académique, pôle le plus érudit, et ben c'est là qu'il se pratique le moins. Alors pour les classiques, ça pose moins de problèmes, parce qu'en général, ce sont des spécialistes, ce sont des universitaires, on compte sur le fait que de toute façon, ils ne demandent pas à être payés pour le faire, ils le font dans le cadre de leur travail, ça crée aussi des disparités dans les conditions d'hétérogénéité, ça c'est la même chose en France. Donc ça se pose moins pour les classiques et je pense qu'effectivement les difficultés de réception elles sont sans doute aussi en partie liées à la qualité et on peut dire à la mauvaise qualité d'un grand nombre de traductions dont j'ai pu faire l'expérience de manière plus ou moins directe. Donc je suis très sensible à cet argument et je milite, ou en tout cas j'aimerais militer pour une réflexion collective sur les traductions en sciences humaines, parce que je pense que le problème est très différent de la traduction littéraire et il est trop facilement assimilé aux traductions littéraires, parce que de fait la condition des traducteurs de sciences humaines elle est adossée dans les organisations, les associations professionnelles à celle des traducteurs littéraires, et alors que les problèmes sont pas du tout les mêmes. Et les problèmes qui se posent sont pas du tout les mêmes. Par exemple, il y a un problème de professionnalisation quasi impossible dans le secteur des sciences humaines, parce que la professionnalisation, elle impliquerait une forme de capacité généraliste qui rend très difficile la spécialisation requise pour traduire les sciences humaines. Voilà. Donc il y a des tensions comme ça. Moi, je serais pour développer une réflexion même d'inscrire la traduction parmi les pratiques dans les masters de différentes disciplines, comme exercice intellectuel, qui permettrait aussi la professionnalisation de certains dans la traduction comme une des activités intellectuelles parmi d'autres, ce que la traduction a très longtemps été avant sa professionnalisation, qui est assez récente. Hein. Voilà. Et en même temps, je milite aussi pour que les traducteurs aient des conditions correctes, professionnelles, enfin, qu'ils puissent travailler, qu'ils soient rémunérés correctement. Enfin, c'est assez scandaleux. Alors, en France, ça va maintenant. Je pense qu'il y a eu, effectivement, bon, Assouline fait le point sur l'état des lieux. Et la TLF a fait un gros travail en amont. On a reconnu, mais ça a été une lutte hein, aussi de faire reconnaître. Ça a été une lutte qui a été menée dans les années 80, de faire reconnaître le travail des traducteurs, de faire. Actes Sud a participé à ça, à faire mettre le nom du traducteur sur la couverture. Donc, il y a eu tout un travail qui a été fait, alors qu'aux États-Unis, on a l'impression que ça va vers le contraire. Voilà.